Radio Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Les moins de 40 ans représentent plus des deux tiers de la population iranienne. Beaucoup d'entre eux critiquent la République islamique et ses interdits. Ils cherchent d'abord un emploi stable, alors que l'Iran traverse une grave crise économique. Pour la sociologue Marnaz Shirali, cette jeunesse, qui n'a connu que le régime des ayatollahs, est courageuse, mais souffre d'un manque de reconnaissance sociale. Parmi les signes visibles de cette fronde anti-système, le refus d'un nombre croissant de jeunes femmes de porter le voile, ce qui entraîne une répression féroce des autorités islamiques contre les avocats qui les défendent. La société rebelle en Iran, une émission que vous pouvez podcaster sur notre appli Pure Radio. On écoute Sia Mesebar, Noir comme neige en français. C'est un rap perçant un brin provocateur. فهمی کنی سوج از الباتی خسته است عرضی ندارم داد و سد را پیوسته است. Bonjour Marnaz Shirali.
Bonjour Éric Bataillon.
Sociologue politique, directrice d'études à l'Institut catholique de Paris. Vous êtes aussi enseignante à Sciences Po Paris. Vous signez dans les blogs du Huffington Post un article consacré à la jeunesse iranienne. Et première constatation, Marnaz Shirali, les jeunes iraniens ne sont guère différents des jeunes français, danois ou américains.
Oui, c'est vrai, quand on les voit comme ça, c'est vraiment, ils ressemblent beaucoup plus aux jeunes qui vivent à Paris ou à New York que à des jeunes dans les pays islamiques ou de la région. C'est vrai que je travaille sur les jeunes iraniens depuis ma thèse de doctorat en 2001, qui a été publiée. Et depuis, je n'ai pas laissé tomber mes jeunes, alors que les premiers jeunes ont grandi, ont vieilli, alors que les nouveaux jeunes qui arrivent sur le marché, ils sont très différents par rapport aux générations précédentes.
Vous voulez dire que sur les tenues vestimentaires, sur ce qu'ils écoutent, sur ce qu'ils font, ils sont très ressemblants avec les Européens ?
Ils sont très ressemblants avec les Européens. Ils sont très différents par rapport aux jeunes de ma génération. À mon époque, on n'était pas aussi courageux que ces jeunes d'aujourd'hui. Personnellement, quand j'étais à l'université, il y a très longtemps, j'avais une peur énorme des agents de l'ordre. Je faisais exactement ce qu'on nous demandait. Je respectais à la lettre les règles vestimentaires que la République islamique exige des femmes. Je n'osais pas faire quelque chose. Et dans ma génération, à l'époque, il n'y a pas eu beaucoup de filles courageuses qui bafouent les règles et qu'elles fassent ce qu'elles avaient envie de faire. Alors que quand j'observe les jeunes d'aujourd'hui, ceux qui sont nés sous la République islamique, qui n'ont vu que la République islamique, d'une étonnante manière, je les trouve courageux. Et en l'occurrence, les filles sont extrêmement courageuses. Elles font plutôt ce qu'elles ont envie de faire. Elles se maquillent, elles s'habillent d'une manière, je dirais, occidentale. Parce que
très moderne.
Très moderne, comme elles voient dans les séries américaines à la télé, sur leurs satellites. Ce qui fait que, finalement, cette nouvelle génération ne respecte pas les exigences de la République islamique au grand malheur des ayatollahs.
Alors justement, vous dites que, et vous écrivez que contrairement à ce que l'on pense généralement, il y a une dé-islamisation de la société. Comment est-ce possible?
Ça, c'est connu. C'est-à-dire que les contraintes, les répressions énormes que la République islamique et ses agents de l'ordre ont imposées à la société iranienne ont complètement dé-islamisé cette société. Aujourd'hui, au Moyen-Orient, vous ne trouvez pas un pays aussi éloigné de l'islam, aussi étranger des règles et des principes islamiques que l'Iran. Vous ne voyez pas plus désislamisés que les Iraniens dans la région. Et ils ne comprennent pas du tout, par exemple, quand je parle avec eux, l'énigme par excellence pour le jeune Iranien, c'est de savoir comment est-ce possible qu'on vit à Paris, qu'on porte le voile. Vous voyez, ils ne comprennent pas ce mouvement inverse qui se produit aujourd'hui dans les pays modernes, les jeunes filles qui veulent se voiler, ça c'est totalement incompréhensible pour un jeune Iranien. Ils ne peuvent pas comprendre.
Alors, est-ce que le pays est paradoxalement moins religieux qu'il ne l'était, par exemple, sous le Shah ?
Sous le Shah, c'est vrai qu'il y a eu une modernisation qui venait d'en haut, de la part de l'État. Le Shah voulait moderniser le pays et, paradoxalement, les Iraniens étaient très attachés à leurs valeurs traditionnelles, à leur religion, à l'islam. Alors qu'aujourd'hui, c'est tout à fait l'inverse. C'est le régime qui veut, à force, islamiser la population et les gens qui se détachent de plus en plus de leur appartenance religieuse et culturelle et ils sont ouverts vers ce qu'on appelle la culture occidentale, ils vénèrent les valeurs occidentales et donc une désislamisation massive. Et comme exemple, comme je l'ai dit dans cet article, la fréquentation des mosquées en Iran est inférieure à la fréquentation des églises en France. Juste pour vous donner une image à quel point les Iraniens sont éloignés de l'islam.
Oui, et en France, la fréquentation des églises est quand même de moins en moins importante. Il y aurait, selon vous, deux espaces en Iran, un espace public hyper contrôlé et un espace privé totalement, enfin, en tout cas, grandement permissif. Ce phénomène est-il visible partout ou est-ce d'abord un phénomène des villes ?
J'attire votre attention sur le fait que 75% des Iraniens sont urbanisés, c'est-à-dire la population rurale est de 25%. D'autres événements qui s'est produit ces trois dernières décennies, c'est l'arrivée des étudiants de l'Université libre de Téhéran, l'Université libre dans les Shkohe-Ozod, dans les villages. Ils ont construit toute une série de l'unité universitaire dans les fafonds des villages, de telle sorte que les étudiants des villes sont partis dans ces villages et ils ont complètement changé les mœurs de ces villages. C'est pourquoi aujourd'hui il est très difficile de dire que dans les villages, les mœurs, les comportements sont très très différents. C'est vrai, il y a une différence, mais pas à ce point-là. Du coup, il y a une homogénéisation ou, si puis-je me permettre, une téhéranisation de la société iranienne avec cette émigration des étudiants partout, dans les petites villes de province, dans les villages, de telle sorte qu'aujourd'hui, un jeune villageois qui n'a jamais mis les pieds à Téhéran peut avoir les mêmes, disons, rêves, peut avoir les mêmes souhaits que les jeunes de Téhéran. Vous voyez, il y a un changement quand même qui s'est produit et c'est quand même, sociologiquement parlant, c'est un événement digne d'intérêt.
Mais vous dites que les jeunes, les 15-25 ans, rejettent massivement les injonctions des ayatollahs. Internet et les réseaux sociaux jouent-ils un rôle dans ce rejet ?
Énormément. Là, vraiment, il faut aller sur Instagram pour voir ce qu'ils font les jeunes Iraniens. Ils ont accaparé cet espace et ils ont trouvé un moyen pour s'exprimer et un moyen pour s'identifier, pour se reconnaître, pour s'affirmer. Évidemment, vous pouvez trouver de tout et de n'importe quoi, évidemment, mais quand même, je trouve ça extrêmement positif. C'est-à-dire, ça casse la censure qui règne sur l'espace public en Iran.
Mais pourtant, les études auxquelles vous vous référez montrent que, malgré tout, malgré leurs attitudes rebelles, les jeunes ont intégré une image négative d'eux-mêmes. Qu'est-ce que ça implique pour eux ?
Les études auxquelles je me réfère, ce sont mes enquêtes, les enquêtes que j'ai menées depuis ma thèse de doctorat sur les jeunes iraniens. J'ai continué ces enquêtes, encore aujourd'hui, mais d'une manière plus systématique, plus méthodique. C'est à partir de 2017 que je travaille avec mes collègues iraniens à l'université de Téhéran et d'autres universités, et nous enquêtons sur les comportements des jeunes de Téhéran. Je ne peux pas donner plus de précisions pour des raisons tout à fait évidentes, mais ça montre que les apparences, c'est vrai. Dans les apparences, les jeunes Iraniens ressemblent aux jeunes occidentaux, mais quand on parle avec eux, on voit quand même la République islamique a réussi à détruire beaucoup de choses à l'intérieur d'entre eux. Vous savez, quand un jeune est systématiquement l'objet d'humiliation, d'atteinte à la dignité et d'absence de respect et l'impossibilité de reconnaissance sociale que n'importe quel individu humain on a avoir droit. Alors ça, c'est très difficile.
Est-ce que ça veut dire que cette absence de reconnaissance sociale, elle empêche ces jeunes d'avoir une action plus concrète dans leur vie de tous les jours, c'est cela ?
On est dans un pays où, selon les chiffres publiés par le gouvernement, il y a 24% de chômage des jeunes. 24%. Alors qu'on sait très bien que ces chiffres sont sous-estimés et que la réalité est beaucoup plus importante. Donc, on est dans un pays où l'économie est en paupérisation et le chômage massif touche les jeunes les plus diplômés et les moins diplômés, mais surtout les plus diplômés. Il est très difficile pour un jeune de 20 ans aujourd'hui de voir un avenir clair faire devant lui-même. Il y a l'absence de reconnaissance sociale dans l'espace public. Il y a des insultes, il y a des répressions, il y a des peines pour les jeunes qui veulent vivre, qui veulent s'habiller à leur façon. Dans ce pays, évidemment, il est très difficile d'être jeune et ne pas être atteint de l'intérieur de soi à travers tout ce que la société vous renvoie. C'est ainsi que finalement, malgré les apparences totalement occidentalisées, malgré leur espoir, leur rêve de vivre autrement, on voit à quel point la République islamique a réussi à détruire l'estime de soi, le respect de soi dans la tête de ces jeunes. Et il est très difficile de pouvoir résister à cette image négative que la société renvoie, que la République islamique renvoie aux jeunes, à cette absence de respect qui règne dans la société, envers les femmes, envers les jeunes, envers tout individu humain.
Que leur reste-t-il ? L'exil ?
Malheureusement, c'est d'ailleurs pourquoi il faut faire attention. Je finis cette partie pour attirer, en fait, sur une note politique. Quand on dit que les pays européens ne doivent pas soutenir les ayatollahs, que le respect des droits humains est très important dans ce pays, et en l'absence de respect des droits humains, aucune négociation ne doit avoir lieu avec les dirigeants de la République islamique. Ce n'est pas des slogans vides, vous voyez, ce n'est pas des slogans, des passifs qui ne voient pas la réalité de la vie. C'est pas ça la question. Quand dans un pays, les droits des individus ne sont pas respectés, évidemment, avec les émigrations, avec toutes ces possibilités de changement, les gens ne peuvent pas rester dans ce pays. Alors, quand les Européens, ils prêchent la cause des ayatollahs, ils doivent considérer que les ayatollahs ne respectent pas les droits fondamentaux des Iraniens, et ça crée une vague d'émigration pour sortir de ce pays où l'individu humain est complètement dépourvu des premiers droits de tout individu humain partout dans le monde.
تک خوری دال رسم ما نه اومدیم مالا رسیدیم با دست خالی پس بدون اصلا بهت پاز پولو نمیدم ولی خوبه وضع مالی آه جک روی اخینه تایی تایتانی تو امثال تو هم دیگه تایی داستانی داشتم پشت میله نیستیش وزش باستانی یا که جایی ما
Vous écoutez Orient Hebdo sur RFI. Nous sommes en compagnie de Mahnaz Shirali, sociologue et politologue, spécialiste de l'Iran, professeur à sciences politiques à Paris. Mahnaz Shirali, on a vu dans la première partie de l'émission quels effets 40 ans de régime religieux autoritaire pouvaient avoir sur la jeunesse du pays. Malgré cela, depuis de nombreux mois, et en tout cas depuis au moins décembre 2017, des femmes, souvent des jeunes femmes, bravent un interdit religieux en ôtant leur foulard islamique en pleine rue. Comment expliquer que ce mouvement perdure malgré les nombreuses arrestations et condamnations ?
Vous savez, Éric Bataillon, finalement, la répression n'a jamais été une bonne réponse au désir des individus pour la liberté. On connaît, ce n'est pas seulement les ayatollahs qui ne réussissent pas à étouffer la population iranienne. Partout dans le monde, dans l'histoire de l'humanité, quand on regarde, on voit toujours que la répression n'a jamais été une bonne réponse. Donc, quand un peuple aspire à la liberté, il est très difficile de le faire taire.
Justement, la répression de la justice est particulièrement dure en ce moment. Pourquoi, à votre avis ?
Parce que ils ont peur, parce que ils n'ont jamais été aussi fragiles qu'aujourd'hui. Je parle des ayatollahs, avec les embargos, avec les sanctions américaines. La situation, en fait, la position des ayatollahs est extrêmement fragile dans la société iranienne. Les Iraniens ne sont pas contents. Ils prennent les dirigeants politiques de la République islamique comme responsables de la paupérisation de leur situation économique, de tous les malheurs qu'ils sont en train de vivre. C'est la raison pour laquelle la peur que les ayatollahs ont de la société iranienne les pousse à imposer encore plus de répression que d'habitude.
Alors justement, ce jeudi, il y a eu une importante manifestation à Paris devant l'ambassade d'Iran, à l'appel notamment d'Amnesty International. Il s'agissait de protester contre la condamnation d'une avocate, Nasrin Sotoudeh. Condamnation à 33 ans de prison et 148 coups de fouet. C'est un verdict particulièrement sévère.
C'est une condamnation d'une dureté inouïe inuits. Et à cela s'ajoute, au début de la semaine, on a appris la nouvelle d'un autre avocat iranien, un autre défenseur des droits humains, Amir Soloreh Javadi, un jeune homme de 30 ans, un avocat au barreau. Il a été condamné cette fois-ci à 38 ans de prison et 111 coups de fouet. Ces deux avocats ne sont pas les seuls. Il y a encore une dizaine d'autres avocats iraniens qui sont en prison, tout simplement, pour avoir défendu leurs clients.
Mais dans le cas de Nasrin, ce n'est pas une condamnation en partie parce qu'elle-même est une non seulement défenseur des droits, mais aussi une activiste finalement. Elle-même enlève son foulard, par exemple.
Écoutez, mais on est quand même dans les activités pacifiques. C'est-à-dire ces gens qui ont copé 38 ans, 33 ans, des centaines de coups de fouet, ils ne sont pas du tout faire quoi que ce soit à part des manifestations totalement pacifiques. Il faut vraiment préciser. Ils n'ont même pas participé à des manifestations. Et dans le cas de Nasrin Sotoudeh, Nasrin, elle a tout simplement défendu ses clientes. Et donc, on a mis une avocate en prison pour avoir fait son travail correctement dans le cadre des lois de la République islamique. C'est ça qui est important. C'est-à-dire, elle n'a pas du tout bafoué les lois. Elle n'a rien fait d'illégal. Tout ce qu'elle a fait, c'est dans les cadres des lois pénales de ce pays. Elle a défendu ses clientes et on l'a mis en prison de 33 ans avec 140 coups de fouet.
Mais ce que l'on reproche à ces personnes, notamment celles qui enlèvent leur foulard, mais aussi ceux qui les défendent, c'est du niveau du symbolique. C'est-à-dire que l'appareil religieux ne veut pas que des femmes enlèvent leur voile, notamment dans l'espace public. C'est cela qui leur est reproché et c'est cela qui, semble-t-il, pose problème pour les autorités.
Et je pense que l'affaire de Nasrin Sotoudeh et d'autres avocats sont des affaires hautement symboliques. Peut-être pas dans le sens de foulard, mais le symbolisme de l'affaire des avocats, c'est que à eux seuls, ces avocats cristallisent 40 ans de répression dans la République islamique. Depuis que je suis en France, depuis que je travaille, je n'arrête pas d'écrire sur l'absence des droits fondamentaux des individus en Iran, mais aucun exemple, aucun cas n'a jamais été aussi significatif et parlant que le cas des avocats. Parce que ce sont des avocats qui ont fait leur travail, je répète, dans le cadre des lois de ce pays et on les met en prison. Et ça montre quel est l'état de la justice en Iran. C'est pourquoi Nasrin Sotoudeh n'est pas une femme en tant que telle. Parce qu'il y a des gens qui disent pourquoi on fait autant de bruit autour de Nasrin Sotoudeh alors que ça fait 40 ans, il y a des centaines de milliers de prisonniers politiques en Iran et personne n'en parle. Mais je défends Nasrin Sotoudeh, je défends ce cas tout simplement parce que cette femme à elle seule symbolise toute la situation des femmes iraniennes et toute absence de justice dans ce pays.
Alors c'est une affaire symbolique, mais c'est aussi une sorte de fuite en avant de la part des autorités. Comment expliquer cette fuite en avant, justement ?
Écoutez, parce que la chose est beaucoup plus compliquée. À mes yeux, ce n'est pas une sorte de fuite en avant, tout simplement. Ils sont hautement soutenus, les ayatollahs, par les Européens. Ils ont le soutien total de Vladimir Poutine. Ils ont le soutien de la Chine, ils ont le soutien des pays et ils se permettent de traiter leur peuple de telle sorte qu'aujourd'hui, quand vous parlez avec les jeunes Iraniens ou avec les moins jeunes, quand vous parlez avec la plupart des Iraniens, ils estiment que leur pays est sous occupation. Ils disent, ces ayatollahs ne sont pas de notre pays. Nous sommes un pays sous occupation. Ils traitent les Iraniens comme une armée étrangère aurait traité un peuple. C'est ça le problème. À quel point les Iraniens se sentent éloignés de ces dirigeants de la République islamique.
Que peut-on faire pour aider la population iranienne?
C'est vraiment la responsabilité de tous les pays démocratiques de regarder en détail la situation des droits humains en Iran et pourquoi les droits des Iraniens depuis 40 ans sont systématiquement bafoués d'une manière extrêmement dure et grossière sans que les pays démocratiques prêtent attention. On parle de nucléaire iranien, on parle systématiquement des missiles iraniens, mais on ne parle pas de ce qui se passe, comment ce régime se permet de traiter le peuple iranien.
Merci Marnaz Shirali.
Merci Eric Bataillon.
À signaler dans vos publications « La malédiction du religieux », c'est édité chez François Bourin. Orient Hebdo, mise en onde et réalisation Mathias Golshani. On se retrouve avec plaisir samedi prochain. Passez une bonne semaine, fidèle à la Radio Mondiale. Tout de suite, le journal.